Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés.
D'accord, faisons comme ça.
C'est à moi que tu parles.
Allô ? Allô ? Y'a personne au bout du fil ?
J'écoute.
Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode 42, cet épisode est sponsorisé par la marque Kleenex, merci à tous de nous sponsoriser bien entendu, parce que je suis malade et j'en ai ras le pompon. Salut Adrien, comment tu vas ?
Salut Thomas, ça s'entend un peu, mais je te dis, ça te fait une petite voix, ça te fait une belle voix grave de radio qui te va bien, je trouve que ça te va bien, donc profites-en.
J'apprécie.
Ça se trouve la semaine prochaine t'en auras plus, donc profite d'être
et
malade.
Et quelque part, le podcast y perdra.
Je pense, évidemment, quoi. On le réécoutera avec nostalgie, mais bon. Non, ça va très bien. Moi, très en forme, contrairement à toi.
Et toujours.
Bah, j'essaye, tu vois, je suis toujours là.
Tu équilibres la balance, quelque part.
C'est ça, en fait, on est un duo, finalement, on est complémentaires, quoi.
Bien sûr.
On est une complémentaire santé. Quand ça va mal, moi, ça va bien, et tu vois, vice-versa, quoi. Donc...
On pourrait pas juste être bien, chacun de notre côté.
Bien, je suis bien. Non.
Il faut toujours une force obscure, une force lumineuse, et tu sais, tu connais, voilà, c'est comme ça.
Ah, Pop News, qu'est-ce que c'est ? Oui, je te coupe, Pop News, qu'est-ce que c'est ? C'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. On fait ça en classique avec les news, les brèves, le point box-office, le gros sujet, dédié cette semaine à l'état de la critique. Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec la critique ? Est-ce que c'est pas trop rapide ? Est-ce que c'est pas trop... bon ou trop mauvais à chaque fois ? Est-ce que c'est tout blanc ou est-ce que c'est tout noir tout le temps ? Est-ce que c'est pas un peu tristoun, la critique en ce moment de cinéma et de séries télé ? On en parlera tout à l'heure dans notre débat avec Adrien. Le radar des sorties et une reco de la part d'Adrien pour terminer cette émission en fanfare. On commence tout de suite par vous rappeler, bien entendu, de suivre nos réseaux, de mettre des étoiles sur les applications de podcast, de rejoindre notre Discord et bien sûr, de donner un petit coup de main sur notre page Ko-fi, si vous voulez aider à cofinancer cette émission, vous pouvez le faire à partir de 1 euro par mois et on en sera évidemment très reconnaissant.
Ah, Ko-fi, ça vient de là, tu crois ? Cofinancer ?
Oui !
Ah, ok !
Il est fort !
Bah, je sais pas, j'essaye. C'est une vraie question, en plus. Bref, excuse-moi, vas-y.
Non, Ko-fi, le café, on offre un café au créateur.
Ouais,
Ouais,
ok,
mais Ko-fi, co-financing, voilà. C'est vrai que c'est très Startup Nation et on apprécie quelque part.
Ça peut être ça, mais bon.
Voilà. Sans doute.
Je pense.
Allez, aide-moi à co-financer ce petit film un peu attendu qu'est Dune 3.
Ben, je t'en prie.
Puisque Dune 3 serait potentiellement une réalité très prochainement. Pourquoi ? Variety a toqué à la porte de chez Legendary Pictures, qui sont donc les coproducteurs de Dune, partie 1 et partie 2. Et ils ont eu quelques réponses. Lesquelles ? La première, c'est que Denis Villeneuve est en train de travailler à adapter un livre de non-fiction qui s'appelle Nuclear War, A Scenario. Il se trouve qu'il serait potentiellement producteur, adaptateur et ou réalisateur. C'est un livre d'Annie Jacobsen qui explore un scénario prêt à se produire dans le cas d'une guerre nucléaire en se basant sur des dizaines d'entretiens avec des experts civils et militaires qui ont construit des armes et sont conscients des plans de réponse en place. Donc ça, c'est a priori le prochain projet de Denis Villeneuve. En tout cas, c'est ce qu'on s'imagine. Mmh. Legendary a tout de même confirmé aussi que Villeneuve est en train de développer un troisième film Dune. Alors vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil, puisqu'on le sait que Denis Villeneuve écrit en ce moment un Dune partie 3, mais le fait que ce soit le coproducteur, le studio coproducteur de ce film, tente à nous montrer que c'est quand même très clairement dans les cartons, et tu nous parleras tout à l'heure du box-office de Dune 2. Bon, c'est un secret de polichinelle à ce stade.
C'est acté quasi, bien sûr.
Exactement. Ouais. Acté quasi également, c'est Matrix, cinquième volume.
Ouais, tout à fait. Bah, en fait, on s'y attendait pas vraiment parce que le 4 avait été un semi-succès, public comme critique. Hein, il avait laissé pas mal de gens sur le bord de la route. Moi, le premier, faut que je leur donne une chance. Je sais pas si toi, tu l'avais vu, Matrix 4. avec Keanu Reeves évidemment et Carrie Ann Moss. Toujours pas, tu l'as toujours pas vu. Je le conseille, hein, parce que c'est quand même un film à part qui tente beaucoup de choses et je pense qu'il est intéressant de le regarder peut-être encore une fois, tu vois, ou des années après sa sortie. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais Matrix 5 est en préparation, mais pas avec Lana Wachowski qui s'était occupée du 4, qui avait laissé justement sa sœur à faire autre chose, parce qu'en fait elle était toute seule à s'occuper de Matrix 4. Là, c'est plus du tout elle qui va se charger de Matrix 5, c'est Drew Goddard qui est le scénariste de Seul sur Mars, qui assumera les responsabilités de la réalisation de Matrix 5. Donc il va écrire le scénario et produira Matrix 5 avec sa partenaire chez Goddard Textiles, qui est sa société de production. De son côté, Lana Wachowski, dont j'ai parlé juste avant, qui donc a réalisé le volet Matrix Résurrection en 2021, est quand même attachée en tant que productrice exécutive sur le projet. En ce qui concerne le casting, on ne sait pas encore de Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, qui ont incarné évidemment les rôles principaux dans tous les films précédents de la saga reviendront. On a aussi d'autres acteurs qui sont apparus dans Matrix Résurrection comme Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra qui ne sont pas non plus annoncés au casting. Donc pour l'instant on n'a rien sur les acteurs et les actrices qui joueront dans Matrix 5. En ce qui concerne l'intrigue du film, on a léger synopsis de la part de Jesse Harman, qui est président de la production chez Warner Bros, qui laisse entendre que l'histoire fera avancer le monde fantastique de Matrix sans s'éloigner trop de ce qui a fait le succès de la série. Voilà ce qu'il dit. Drew est venu chez Warner Bros avec une nouvelle idée que nous croyons tous être une manière incroyable de poursuivre l'univers de Matrix, en honorant à la fois ce que Lana et Lily ont commencé il y a plus de 25 ans, et en offrant une perspective unique basée sur son propre amour de la série et des personnages. Toute l'équipe de Warner Bros. Discovery est ravi que Drew réalise ce nouveau film Matrix, ajoutant sa vision au canon cinématographique que les Wachowski ont passé un quart de siècle à construire ici au studio, et blablabla, et blablabla, et blablabla. N'en jetez plus. Voilà pour Matrix 5. Pareil, en ce qui concerne la date de sortie, on n'a rien de spécial, mais je veux juste revenir sur Drew Goddard, qui est quand même pas n'importe qui, je l'ai dit. Il a été quand même nommé aux Oscars pour son scénario de Seul sur Mars. Il a aussi à son crédit des longs métrages au niveau de l'écriture de Cloverfield et de World War Z, et il a réalisé un film que j'adore, c'est La cabane dans les bois. La cabane dans les bois, qui est une sorte de parodie, en tout cas qui détourne énormément les codes du slasher et du film d'horreur. C'est une vraie pépite, qui est sortie maintenant il y a peut-être 12 ans, ouais, c'est ça, ouais, donc qui est assez vieux, mais qui est super, qui a pas vieilli là-dessus. Et il a aussi réalisé Saltan à l'aile royale, que je n'ai toujours pas vu, avec Chris Hemsworth. Voilà. Désolé pour la news un peu longue, mais en fait, on en fait moins ce soir, donc en fait, j'en profite un petit peu pour parler de tout ça. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un Matrix 5, et ce que vous avez pensé aussi de Matrix 4, qui, comme je l'ai dit, a été un peu clivant, quoi.
Clairement. Choix qui sera également clivant, c'est celui de l'acteur ou de l'actrice pour jouer le Silver Surfer chez Marvel pour les 4 Fantastiques. Il s'agit d'une information Deadline qui, selon plusieurs sources, c'est Julia Garner qui jouera le Silver Surfer des 4 Fantastiques l'été prochain. Il s'agit de la version Chalabal, une des versions du Silver Surfer dans les comics.
Timothée Chalabal ?
Chalabal, ouais.
J'ai Timothée Chalabal.
Timothée Chalabal, c'est très bon. C'est très bon. J'aime bien. Okay. J'apprécie ce que vous faites, monsieur.
Je te coupe.
Ouais, mais surtout pour ce genre d'informations, c'est important. Moi, je trouve. Allez,
rions un peu.
Et rions, mince, mais bien sûr. Il a gâché ma news, j'en peux plus. Alors, qui est Julia Garner? C'est une actrice américaine de 30 ans qui a quand même déjà 3 Emmy Awards remportés à sa ceinture, ainsi qu'un Golden Globe pour le rôle de Ruth dans Ozark. Elle a aussi été nommée à la fois aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour le rôle d'Anna Delvey dans Inventing Anna. Et elle a aussi joué dans The Americans, dans Sin City 2 ou encore dans Maniac. C'est très cool. Franchement, c'est intéressant de voir que Marvel va récupérer un petit peu des stars montantes. L'âge du Silver Surfer est assez intéressant quand même, 30 ans. Dans une version, moi, je me suis renseigné vite fait, en fait, Chalabal, c'est Timothée Chalabal, du coup. C'est a priori, dans le canon des comics, c'est plutôt le love interest du Silver Surfer, donc elle vient d'une planète qui s'appelle Zenla, je crois, et en fait, ils sont amants, Et donc le fait que ce soit elle qui incarne le Silver Surfer dans cette édition-là des 4 Fantastiques tend plutôt à nous faire croire que ces 4 Fantastiques se situent probablement dans une timeline différente de celle du MCU. Donc pourquoi pas. C'est un personnage qui est assez, qui est très lié à Galactus. Donc à nouveau, ce qui nous prouve que a priori ce sera lui le grand méchant de ce film.
C'est quasi acté ça aussi. Hein.
Oui. C'est donc on attend a priori le casting bientôt de Galactus, même si pour l'instant on a quelques rumeurs, mais pour l'instant rien d'officiel.
Et lié à ça, à cette news, il y a aussi Marvel aux États-Unis qui a donné l'accès libre et gratuit à 4 comics Fantastic Four. L'original, le tout premier, le tout premier Fantastic Four. Il y a eu un Fantastic Four aussi qui revient sur les années 60 et un Fantastic Four qui parle de Galactus. Donc, pareil, ça met un petit peu la puce à l'oreille sur le côté, il y aura forcément Galactus dans ce nouveau Fantastic Four. Ouais.
Très probablement. Je te donne la parole avec la dernière news de cette semaine. C'est Jonathan Nolan qui parle du futur de Westworld.
Oui, Jonathan Nolan, on le rappelle, donc c'est le créateur de Westworld, la super série de HBO qui, personnellement, je trouve, s'est cassé la gueule de plus en plus en fait, au fur et à mesure des saisons, mais qui a une saison 1 parfaite, une saison 2 un peu imparfaite, une saison 3, je trouve, et 4 qui commence un petit peu à partir un peu trop loin. Mais Jonathan Nolan a toujours l'intention, et il le dit à 100%, de terminer Westworld. Pourtant, Westworld a été annulé. Pas HBO, c'est terminé, oui. ils ont coupé l'arrivée d'eau, quoi. Et donc c'est fini, sauf que pour Jonathan Nolan, il le dit, nous sommes des perfectionnistes, et en ce qui concerne les leçons sur alléger la complexité ou l'étrangeté de quelque chose dans la série, considérez que tout ça n'a pas été appris. Donc il veut absolument finir sa série comme il l'entend, il le dit au Hollywood Reporter, il le dit, je veux la finir à 100%, il m'a fallu 8 ans et un changement de réalisateur pour que Interstellar soit réalisé. Donc nous aimerions terminer l'histoire que nous avons commencée. S'il parle d'Interstellar, c'est parce qu'en fait il est au scénario d'Interstellar avec son frère Christopher Nolan, et pour lui c'est peut-être juste un obstacle sur sa route, l'annulation de HBO, mais on sait jamais, peut-être qu'une autre chaîne ou une autre plateforme reprendra la série d'ici quelques temps. Il poursuit, je suis tellement fier de ce que nous avons fait sur Westworld, c'était une expérience extraordinaire, je pense que ce serait une erreur de regarder en arrière et de ne ressentir que du regret sur la façon dont cela s'est terminé, mais il y a toujours un très fort désir de terminer la série. On rappelle que Westworld, comme je l'ai dit, a été un énorme succès avec 54 nominations aux Emmy Awards et 9 victoires quand même, malgré, au fur et à mesure des saisons, une baisse d'audience côté HBO. Ça n'a pas empêché la série quand même d'avoir 4 saisons à son actif. Voilà pour la news. On vous en dira un peu plus si jamais, comme je l'ai dit, une plateforme récupère la série ailleurs, mais pour l'instant rien n'est fait, rien n'est acté, mais Jonathan Nolan ne lâche rien. Et je termine sur cette news en parlant de Fallout, la série Fallout que Jonathan Nolan chapote de son côté pour Prime Video. Donc il est parti faire autre chose, vous inquiétez pas. Et si vous voulez retrouver une petite patte Jonathan Nolan, il suffit juste de regarder Fallout qui sort ce jeudi 11 avril 2024 sur Prime Video. Et en prévision de la série de Prime Video, je vous ai concocté un petit guide qui dure pas plus de 6 minutes, qui sera diffusé sur YouTube et Dailymotion, qui parlera aux néophytes, à ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo Fallout, dont est tirée la série. Et je vous résume ce que c'est que Fallout, pourquoi vous devez regarder la série et ce que vous allez retrouver dans la série pour ne pas être perdu. Voilà, je pense que
parfait. Tout est le tout shameless est plug, évidemment, il faut le faire, c'est important.
Et on est chez nous, hein. On fait ce qu'on veut, c'est notre émission.
Bien sûr, Fallout que vous retrouvez dans le radar des sorties à la fin de ce petit vidéo, de ce petit podcast. C'est l'heure des news en rapid fire, les fameuses brèves. Je vous propose un nouveau round de casting pour The Witcher 4. The Witcher, saison 4, pardon, avec Charlton Copley que vous connaissez pour District 9, ainsi que James Purefoy qui a joué dans pas mal de trucs fantastiques, moins fantastiques parfois, et Danny Woodburn qui rejoignent du coup en exclusivité pour Variety la saison 4 de The Witcher, qui continue en fait à aller chercher du talent. Donc on ne sait pas exactement qui ils vont jouer.
Malgré le départ d'Henry Cavill. Hein,
bien sûr, bien sûr. Alors, Purefoy, c'est Skellen. Bon, je ne sais pas qui c'est, parce que moi, je ne connais pas trop The Witcher. Et puis, Zoltan, pour Danny Woodburn. Voilà pour les informations d'une 3. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure dans la première section. Joker 2 sera rated R aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y aura beaucoup de violence et un tout petit peu de full frontal nudity. On ne sait pas encore de qui il s'agira, peut-être de Lady Gaga ou de Joaquin Phoenix, on ne le sait pas, mais en tout cas, possible. En tout cas, voilà, déconseillé aux moins de 17 ans aux États-Unis, ce qui est un signal fort, évidemment, pour ce film Joker Folie à deux, qui est toujours prévu pour fin 2024. Disney qui retarde Vaiana 2 par, d'un an, en fait, qui sortira en 2025, et qui date également The Mandalorian and Grogu, qui sortira très exactement le 22 mai 2026, soit le 20 mai 2026 en France. Voilà pour les news en rapid fire. Adrien, je te propose d'enchaîner avec ton point box-office.
Ben c'est parti. Pour ne pas changer, je vais parler de Dune 2, évidemment. Dune 2 qui continue son chemin. À l'international, Dune 2 est déjà à 660 millions de dollars récoltés sur son run de plusieurs semaines. Aux États-Unis, il est à 264 millions, donc c'est énormissime. La prévision des experts de son score final, ce serait environ 700 millions de dollars. Donc là, il lui manque à peu près 40 millions pour atteindre ce chiffre, ce qui serait quand même énorme pour Denis Villeneuve. On rappelle que le budget estimé de Dune partie 2 est de 190 millions, donc il est largement entré dans ses frais. En France, le box-office l'a amené à 304 000 entrées la semaine dernière, ce qui fait qu'il y a un cumul aujourd'hui à 3 720 000 entrées, donc ce qui est pas mal du tout aussi pour la suite de Dune. Dune qui aura un troisième épisode, si va bien, mais là encore une fois, c'est un secret de polichinelle, comme tu l'as dit, à 99,9%. C'est sûr qu'on aura un Dune 3 d'ici quelques années, donc la hype ne faiblit pas pour Dune 2. Je poursuis avec Kung Fu Panda 4, qui lui a quand même de très belles recettes mondiales avec 410 millions de dollars de recettes récoltées. Sur le territoire américain, on est à 166 millions de dollars de recettes. Les prévisions du score final tournent autour de 575 millions de dollars pour un budget estimé à 85 millions de dollars. Donc c'est quand même très très bon du côté de DreamWorks. Ils ont bien fait de mettre une suite en route, même si on rappelle que le budget des précédents coûtait entre 130 et 150 millions. Donc en fait, ils ont investi un peu moins et vont rentrer plus vite dans leurs frais avec Kung Fu Panda 4. Donc c'est une très belle opération. Kung Fu Panda 4 en France, c'est déjà 825 000 entrées pour sa première semaine d'exploitation. Pas mal du tout aussi. Hein, il a frôlé le million pour une semaine, c'est pas mal du tout. Et je termine avec Godzilla X-Kong The New Empire, donc voilà, Godzilla comme tu disais la semaine dernière, X de Xbox Kong, qui à l'international fait 361 millions de dollars de recettes, c'est énormissime. Sur le territoire américain, il est à 135 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 135 millions de dollars de recettes. Donc juste les recettes américaines ont remboursé le budget du film. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'apparemment, le film est l'un des moins chers du Monsterverse, comme on l'appelle, en fait, des films Godzilla et Kong qui sont sortis précédemment. Donc, Kong Skull Island, Godzilla versus Kong, c'était ça, je crois, le précédent. Donc, voilà. Et en France, pour le box-office français, le premier jour a amené Godzilla X Kong à 61 000 entrées sur 639 écrans. Et si on cumule ça avec les avant-premières, on est déjà à 96 000 entrées. Pas mal du tout pour un premier jour de faire 100 000 entrées en France, c'est pas dégueu. Ouais. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Et pareil, on sent qu'il y a une hype qui tourne autour du film et les gens se rendent nombreux en France comme à l'étranger.
Très bien. Voilà. Bah écoute, merci pour ce point box-office, Adrien.
Avec plaisir.
On va pouvoir enchaîner avec notre gros sujet de la semaine. Est-ce que la critique est devenue folle ? C'est un petit peu le... Voilà, pour résumer le sujet, qu'est-ce que c'est ? En fait, on s'est rendu compte, et c'est pour rendre le crédit là où il est dû, c'est Anthony qui en a parlé avec Adrien cette semaine, et qui nous a dit...
Anthony, attends, précision. Anthony, donc, qui est un viewer, un auditeur de Pop News et qui est sur notre Discord avec qui on discute régulièrement, comme beaucoup d'autres sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Justement, exactement, ça nous permet d'interagir et d'avoir des supers idées qu'on peut repiquer. Voilà, même si on va évidemment dire que c'est Anthony qui nous a donné l'idée, mais c'est important pour nous, justement, de partager des choses avec vous. Donc, voilà. Bref,
c'était un et le message, en fait, d'Anthony et Adrien, c'était... en fait, lui, il était plus ou moins un peu choqué des mots qui étaient très souvent revenus en fait autour de différents films, etc. Donc lui, il a cité notamment Masterclass, Banger, Claqué au sol, des trucs comme ça. Et en fait, on se rend compte que sur plus ou moins tous les gros films, il y a ces mêmes adjectifs, ces mêmes substantifs qui sont utilisés. Et donc on s'est dit, mais en fait, c'est intéressant comme sujet. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose de l'état de la critique actuelle? Alors évidemment, pas de la critique, on va dire, au sens professionnel du terme, même si on l'évoquera, je pense. Il y a évidemment, dans l'ère des réseaux sociaux, la critique, elle est donnée à tous. Hein, la capacité de faire une critique. Alors, bon, à une
époque... Et nous, les premiers. Et
bien sûr, il faut qu'on en parle aussi, puisque nous aussi, on a commencé avec ce podcast qui s'appelait à l'époque Pop Tir, et on proposait nos critiques de films et de séries, ouais, parfois de jeux vidéo. Et donc, il faut le dire, nous, on n'est personne, en fait, hein, pour critiquer des œuvres, mais on le fait quand même, parce que on aime le faire. Ouais. Et je pense que ça, c'est un droit qu'on ne peut pas refuser à tout le monde, en fait. Hein. Tout le monde a le droit d'en parler. Maintenant, après, c'est comment est-ce qu'on parle, en fait, de tout,
voilà,
ça.
C'est comment tu traites. C'est ça, comment tu argumentes. Parce que je trouve que la critique permet évidemment de parler d'un film, d'une œuvre en général. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une peinture, une musique, un bouquin. La critique est essentielle pour moi. Il faut de la critique. Mais il faut savoir argumenter surtout derrière. Parce que c'est nul. Je le supporterai jamais. J'aime pas qu'on me parle d'une œuvre de cette façon-là. On me dit je n'aime pas ou j'aime pour une raison, pour une autre, et on en débat. En fait, le problème vient de là. C'est aujourd'hui, il y a surtout un côté, en le disant off, blanc, noir, mauvais, bon, et il n'y a jamais de recul pris, je trouve, ouais, sur une œuvre, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'affect, sûrement, aussi,
bien sûr,
par rapport à certaines œuvres. Si on parle de ça aujourd'hui, c'est aussi par rapport à Dune 2 qui vient de sortir, Dune 2 qui polarise énormément et Alors, il ne fait pas forcément consensus, hein, mais tu sens que... oui, un peu quand même. Tu sens que si tu n'aimes pas le film... Eh bien, t'es pas dans le bon camp, quoi. C'est-à-dire que il faut vraiment ramer et trouver les bons arguments, ouais, pour te faire entendre. À l'inverse, un Astérix, l'Empire du Milieu, qui était sorti en début d'année dernière, de Guillaume Canet, c'est la même chose. Si t'aimes pas, t'es dans le bon camp. Si t'aimes bien, bah, oui, vas-y, il va falloir sortir les rames pour t'expliquer, quoi.
Je suis d'accord. Il y a des choses qui sont de bon ton d'aimer,
ouais,
et d'autres qu'il est de bon ton de ne pas aimer.
Genre, c'est facile, il faut suivre le mouvement, quoi. Mm-hmm. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que ça n'apporte rien. Je dis alors, encore une fois, si vous avez aimé Dune 2, vous avez sûrement raison, en fait, mais c'est tout ça est subjectif, en fait. Je dis pas que vous avez tort, au contraire, vous avez ni tort ni raison, c'est que vous aimez une œuvre, ou c'est tout. Enfin, moi, ça va pas plus loin, quoi. Par contre, on va en débattre. On va peut-être débattre d'une scène en particulier. On va peut-être débattre de la réal, du montage, du casting, de l'acting, de plein de choses comme ça. Mais de dire que c'est un chef-d'œuvre absolu, donc un banger, une masterclass, et on s'arrête là, et tout de suite on va trasher les gens qui disent l'inverse. Non, en fait, ça marche pas. Moi, je ne supporte pas, quoi. Heureusement, la critique professionnelle ne fait pas ça, parce que sinon ça n'aurait aucune valeur, hein, ça n'aurait plus rien. Mais tu sens, comme tu l'as dit, que c'est de bon ton parfois, voilà, de suivre un mouvement particulier, quoi.
Bon, oui,
je sais pas ce que t'en penses, toi.
Non, mais je vois les blagues sur le chat de Twitch. D'ailleurs, rejoignez-nous sur Twitch, hein, tous les lundis à 20h30. J'ai Arnaud qui dit pareil. Moi aussi, je respecte entièrement ton droit d'avoir tort sur Dune 2. Ou Franck qui nous dit, vous avez le droit de ne pas aimer Dune 2, mais si c'est le cas, je pense que vous devriez consulter. Bon, c'est rigolo. Mais non, mais ce qu'on veut dire, je pense, là-dedans, c'est que souvent, il n'y a plus vraiment de place à la nuance dans ce genre d'avis.
Oui, voilà.
Ouais. Qui sont postés partout, en fait, hein, sur Internet, puisque tout est un endroit où donner son avis, et les gens ont le droit, bien entendu. Moi, ce que je regrette, c'est souvent la forme de ces avis, où tu vas avoir les avis Google, les avis Allociné, les avis Rotten Tomatoes, les avis sur Twitter, qui sont les formes, on va dire, les plus courtes d'avis. Et donc, la plupart du temps, tu vas avoir une phrase, deux phrases, trois phrases, pour te dire à quel point soit c'est nul à chier, soit c'est le chef-d'œuvre de la décennie. Et moi, c'est ça que je remets en cause, c'est le fait que c'est soit génial, soit c'est nul. Il y a jamais rien entre les deux. Et moi, souvent, je me rends compte que dans mes avis, beaucoup plus nuancé que ce genre de, que ce genre de choses. Alors souvent, on va me dire, oui, mais alors du coup, ton avis, il est pas franc. Mais ouais, mais excusez-moi, mon avis, il est pas franc, mais c'est mon avis.
Oui, alors, déjà, tu vois, ça, ouais.
Genre, bah, regardez par exemple la critique qu'on a fait tous les deux de Dune Partie 2, où les gens avaient l'air de dire qu'ils étaient plutôt d'accord avec moi qu'avec toi.
Oui, j'ai pas compris ça.
Et en réalité, on disait la même chose.
Oui, ça, ça m'a surpris. C'est étonnant parce que donc on n'a pas défoncé d'une deux. Hein.
Non.
Moi, sûrement un poil plus que toi.
Oui, sans doute.
Mais c'est la forme en fait que j'ai utilisée qui est différente. C'est-à-dire que toi, tu pensais quasi la même chose que moi, mais moi j'ai utilisé une forme peut-être un peu plus hard, un peu plus dure, avec un peu plus de punchline peut-être. Mm-hmm. Et tout le monde après m'a dit, oh, dis donc, Thomas était vachement plus nuancé. Et, lui, je suis plus d'accord avec lui quoi. Et parce que humainement, je pense que ça allait dans leur sens quand peut-être. Tu aimes quelque chose et que tu veux pas trop le défoncer.
Bien sûr.
Quoi. Mais ouais, écoutez notre critique de Dune 2.
Allez-y, bien sûr.
Mais en fait, et puis il y a un truc aussi avec la critique, c'est que tu peux aimer quelque chose un jour, deux ans plus tard, tu peux le détester. Ou à l'inverse, tu peux dire c'était nul. Revenir sur le film ou la série ou le jeu vidéo deux ans après, tu fais, bah, en fait, j'avais tort, j'ai grandi. Il y a des thématiques qui me passaient au-dessus avant, maintenant elles me passent plus au-dessus. Ouais. J'ai vu énormément de films depuis et donc j'ai beaucoup plus de notions de ce qu'est je sais pas le montage, la réal, etc. De grammaire cinématographique, donc en fait je comprends ce qu'il a voulu faire à ce moment là c'est au-delà même des références que tu peux avoir dans un film je parle même juste du métrage et de la façon tu vois de mettre en scène un film. Bah en fait c'est ça bouge tout le temps, donc en fait d'être tout de suite dans, et on le sait, YouTube aime beaucoup ça, ou même les sites, il y a beaucoup de sites qui font ça, d'être dans le négatif absolument, d'être dans le truc. L'exemple en date, j'ai pas vu le film, mais le dernier exemple en date, c'était par exemple Madame Web. Pareil, c'est de bon ton de critiquer, de défoncer le film, qui est sûrement très mauvais, je l'entends, je l'ai pas vu, mais j'imagine et je veux bien croire la critique, parce que j'ai lu des critiques aussi avec lesquelles je suis d'accord. Je parle de personne, je parle de la personne critique, je parle pas du format. Et ces personnes-là, je suis d'accord avec elles en général. Et je me dis, ok, sûrement. Mais ça n'empêche que tu sens qu'il y en a beaucoup qui ont tiré sur l'ambulance pour tirer sur l'ambulance et que c'était un peu fait exprès, quoi. Enfin,
ça, c'est un truc que je reproche beaucoup, notamment au format critique sur YouTube. C'est que c'est beaucoup plus vendeur d'y aller hard sur la critique, voire à être de mauvaise foi, plutôt que d'être neutre dans son titre et dans sa miniature. Et d'être un peu nuancé dans sa critique. Ça ne vous rapportera jamais rien.
Bah,
non mais en vrai,
là, si fait,
en tout cas sur YouTube mais... particulièrement. Non mais le fait d'être nuancé, je dis.
Ah, excuse-moi, bien sûr, oui, ok. Ouais.
Par contre, vous irez voir. Alors, moi, je vous encourage notamment à taper, parce que je m'en étais rendu compte à l'époque, sur YouTube, les Anneaux de Pouvoir. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et tu ne verras que des gens qui n'ont rien à dire de positif sur cette série, parce que c'était, à l'époque, leur niche pour faire de la vue et pour faire de l'engagement. Ouais. Et ça, moi, je trouve que... Alors, du coup, bon, bah, le réseau social me donne tort, hein, mais dans le sens où je trouve que c'est pas s'engager vers de l'apaisement que de... toujours donner dans la mauvaise foi et de critiquer négativement tout le temps. Mais ça, ça fait partie aussi, et il faut qu'on en parle, parce que la critique, elle est aussi maniée par la critique installée, la critique professionnelle, mais aussi par les influenceurs qui ont de plus en plus d'importance. Et ces influenceurs qui sont aussi dans le canal, on va dire, des attachés de presse qui vont leur proposer d'aller voir les films. Et donc, d'en parler. Alors, bien entendu, dans la critique ciné, il y a beaucoup d'influenceurs de qualité. Il y en a aussi qui font ça pour aller à des avant-premières et pour se faire mousser un peu.
On peut le dire, nous, on a vécu ces avant-premières-là assez souvent, parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'avant-premières de presse. On sait qu'il y avait deux camps à chaque fois. Il y avait le camp des journalistes critiques, presse, généralistes ou spécialisés, et de l'autre côté, les influenceurs qui venaient, qui faisaient en général, je vais faire le boomer, et voilà, mais qui faisaient beaucoup de bruit, et qui étaient là un peu juste pour se faire voir. Et c'est normal, c'est leur métier.
C'est le jeu.
Mais c'est leur métier aussi. Hein. C'est leur métier. C'est le métier d'influenceur. Hein. C'est le métier d'être GTA à cette promo, etc. Et les marketeurs et les agences de com sont pas idiotes, hein, elles savent bien que c'est ça qui fonctionne.
Bien entendu.
Donc voilà, faut plus se battre quand tu es un média qui débute qu'un influenceur qui débute. Mmh. Un influenceur touchera beaucoup plus facilement et viralement des internautes. Mais oui, alors ça c'est un autre sujet aussi, hein, mais qui est un sujet important hein, sur la critique. Est-ce que on dit souvent, c'est un critique qui est vendu, notamment dans le jeu vidéo, on dit oh là là, il a dû récupérer un chèque de l'éditeur du jeu vidéo pour mettre une bonne note à ce jeu, alors que tout le monde dit que c'est nul, etc. Comme si un journaliste ou une journaliste ne pouvait pas avoir de libre arbitre et ne pouvait pas décider pour lui-même ou elle-même ce que vaut une œuvre, voilà. N'oublions pas aussi qu'on n'est pas en train de parler de politique à ce moment-là. Et c'est ça qui me dépasse parfois, c'est qu'en fait, les gens vont sûrement parfois un peu trop loin en se disant « Oh là là, il a mis une mauvaise note à cette œuvre, il a dit que c'était horrible, etc. » Ça reste du cinéma, ça reste de la télévision, ça reste du jeu vidéo. Faut redescendre aussi, quoi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'excitent, tu vois, pas mal. Oui. Comme si on avait kidnappé leur famille, quoi. Et tu fais « Non, non. » On redescend un peu, c'est juste de la fiction. Non mais c'est vrai, c'est important aussi.
C'est un truc qui est très présent notamment dans les notes sur les sites de jeux vidéo,
ouais.
Où les gens se font un avis sur des trailers, sur parfois des démos qui n'existent pas, et ont déjà leur note en tête. Et si la note du site qui est donnée ne correspond pas à ce qu'ils avaient envie, tu peux être sûr que les commentaires vont brûler, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est un truc, je pense qu'il faut qu'on en parle aussi, c'est que la critique, c'est aussi quelque chose dans lequel il y a la prévalence du système de notation. Chez Allociné, c'est des notes de 0 à 5. Sur tous les magazines presse papier, tu vas avoir des notes, que ce soit des étoiles ou des petits emojis chez Télérama ou des trucs comme ça. Évidemment, il y a Rotten Tomatoes, avec le pourcentage des notes critiques et le pourcentage des avis publics. Mais aussi le CinémaScore. Le CinémaScore, c'est des projections qui sont organisées pour du public en amont d'une sortie de film et qui vont proposer aux gens de noter le film sur l'échelle de notation, on va dire, américaine, avec le A+, le A, le A-. Ouais. Le B+, etc. Et donc tout ça, en fait, ça fait partie de ce gigantesque marché qui est celui de la critique, qui est évidemment important parce que ça fait quand même bien de mettre des jolies étoiles sur ton affiche ou des jolis avis sur ton affiche ou dans ton trailer. Mais je ne sais pas, à l'heure actuelle, si c'est aussi important que ça pour les gens, pour qu'ils aillent voir les films. Ça, c'est une question que je me pose.
Je pense que ça va dans ton sens. Si t'as envie de voir le film, si tu défends le film, t'es très content qu'il se mange un A+ en CinémaScore, qu'il se mange un 90% sur Rotten Tomatoes, etc. etc. Je pense que ça joue. Même moi, inconsciemment, ça joue. Je me dis, par exemple, demain, il y a... c'est Nous, les Leroy qui sort mercredi, le film de Flaubert, du Floodcast. J'en ai beaucoup entendu parler. J'aime bien le Floodcast, j'aime bien tout ça. Si demain, je vois 4 sur 5 sur Allociné, je fais... ça me confirme que le film est bon. Et peut-être que c'est des fois, c'est genre... la petite bascule qui fait que je vais me rendre au cinéma. Ou à l'inverse, je fais « Ah, j'y étais presque, mais en fait, là, 2 sur 5, je vais peut-être pas y aller, je vais peut-être attendre qu'il passe à la télé, tu vois. » Je dis ça, c'est un exemple, hein, et encore une fois, c'est un mécanisme inconscient, donc c'est compliqué. Je parle de la critique avec les notes, mais est-ce que quand tu discutes avec tes potes, avec ta famille, tu leur dis pas « Oh, je mets vraiment 8 sur 10 à Dune 2. » Non, quand tu critiques un film, quand tu parles d'un film, tu dis « J'ai ressenti ça. » c'était comme ça, j'ai vu ça, machin, etc. quoi. Et donc, moi, je privilégie toujours les critiques, même si c'est long à lire ou à écouter ou à voir, mais les critiques qui font minimum 5 minutes, 10 minutes en vidéo, des critiques papier qui prennent le temps de poser un contexte. Parfois, j'aime bien aussi avoir des papiers d'ambiance, c'est idiot, mais de savoir comment le journaliste l'a vu. À quel moment de sa journée, est-ce qu'il était dans un bon mood, est-ce qu'il s'attendait à un film bon, un mauvais film, est-ce qu'il connaît bien la filmo du réalisateur, est-ce qu'il connaît bien les acteurs, est-ce qu'il découvre cet univers, est-ce qu'il est étranger à tout ça, c'est important aussi, tu vois. Pour moi, ça c'est le métier de critique, et ça c'est pas juste de dire c'est super, non c'est nul. En fait, vraiment, pour moi, il faut argumenter, mais à fond, et même au-delà d'argumenter et de faire le poseur en disant « Regardez, il sait poser sa caméra, il est génial par rapport à telle référence qu'il a fait à Billy Wilder et tout. » Non, c'est très bien, hein. Mais ça, c'est un truc d'initié dans l'idée, tu vois. Enfin, mais si tu veux aller encore plus loin, vraiment fais-moi vivre le truc. Et si tu fais vivre le truc, c'est comme quand quelqu'un te raconte une super histoire, et j'y vais, en fait, j'y crois. Mais il peut te raconter une super histoire en disant que c'est de la merde, hein. Mais au moins, je fais, bah vas-y, c'est vendu, quoi. Je sais pas, je suis peut-être trop loin dans le truc, mais
non, mais je comprends ce que tu veux dire. Bah, ça, c'est ce que tu recherches dans une critique.
C'est un métier, quoi. C'est un vrai métier.
Ouais.
Et encore une fois, je le dis, nous, on n'est pas forcément bons là-dedans. Hein. On est personne dans ce truc-là. Mais
je reviens sur la remarque d'Anthony dans le chat qui dit: moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'un terme, un adjectif très fort et prestigieux est désormais utilisé pour tout et n'importe quoi, au point de le rendre banal, ce terme. Il a perdu de sa saveur au point même qu'on n'ose plus vraiment l'employer, sachant que beaucoup exagèrent avec et que ça peut passer pour un avis lambda, désormais en ayant pourtant un point solide sur la critique qu'on émet. Et ça, je suis super d'accord. Évidemment, on utilise souvent des mots maintenant, on va dire, outranciers pour retranscrire nos pensées, que ce soit ironiquement ou, on va dire, objectivement. Mais tu vois, moi, à chaque fois que je vois le mot masterclass, j'ai un sourire jaune, tu vois. Le mot banger, pour moi, n'existe pas. Mais tu vois, c'est... Et à la fois, et je suis persuadé que même les gens qui l'emploient premier degré savent très bien que, objectivement, c'est pas banger ce qu'ils sont en train ils sont en train de parler. Ouais. C'est juste que c'est comme ça qu'on s'exprime. Et donc, effectivement, ces termes, ils deviennent galvaudés. Moi, c'est le mot chef-d'œuvre. Je suis toujours très circonspect quand je vois le mot chef-d'œuvre utilisé.
Ou génie, pareil.
Par exemple.
J'ai tendance à l'utiliser comme ça, à tort et à travers, tu le sais. Mais c'est un tic de langage, un tic d'écriture et de langage. Mais je suis entièrement d'accord. Hein. C'est des choses qui réduisent l'œuvre et la critique, en fait, énormément.
Parce oui, c'est ça.
Alors, tu peux le dire, imagine, je dis n'importe quoi. Tu fais partie des cahiers du cinéma et tu dis ce film est un banger, mais derrière tu déroules sur 3 pages en disant pourquoi c'est un banger. Oh, bah, ok mec, aucun souci. Par contre, si tu dis juste c'est trop un banger, hein, parce que j'adore Christopher Nolan. Ouais, d'accord, mais pourquoi? Explique-toi. Genre, c'est cool, mais elle va plus loin, en fait, quoi. Et t'as l'impression que
c'est des avis
prêt à penser, tu vois. C'est vachement prêt à penser. Ouais.
Oui, mais c'est des avis qui sont aussi faits à l'emporte-pièce et c'est typique des réseaux sociaux.
Bien sûr.
Ouais, c'est typique de notre consommation actuelle d'Internet et des œuvres. On va utiliser le mot masterpiece, le mot masterclass, le mot banger, le mot claqué au sol, et on va utiliser exactement le même, on va dire, champ lexical pour le prochain film ou la prochaine série qu'on va juger. Et ça fonctionne pas. Parce que si toutes les séries et tous les films que tu vois dans l'année sont des masterclass, c'est qu'il y a un souci avec ton esprit critique, en fait.
Alors, et ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça aussi en vient... Enfin, il faut parler du fait que plus tu vois de films et plus tu vois d'œuvres, plus c'est compliqué d'être critique. Et je sais plus qui disait ça. C'est un cinéaste qui disait ça, que justement, c'est difficile d'être critique de cinéma, parce que si tu te manges une centaine de films dans l'année, t'as plus assez de recul, en fait, sur ce qu'est une œuvre et comment l'analyser, quoi. Je crois aussi, je veux pas me tromper, je crois que Christian Bell voit très peu de films parce qu'il veut pas se lasser de son médium. Il veut pas, tu vois, perdre le goût et l'appétence qu'il a pour le cinéma. Il en voit, hein, des films, mais tu vois, il en voit pas comme un critique de cinéma peut en voir, comme beaucoup de réalisateurs, j'imagine, peuvent en voir. Il y a quand même aussi beaucoup de réalisateurs qui ne voient pas énormément de films et qui n'ont pas forcément énormément de références, mais ça ne les empêche pas d'être des bons réalisateurs. Et ça, c'est intéressant aussi en termes de critique, parce que tu as l'impression que des fois, c'est une boulimie, notamment sur YouTube. Genre, tous les deux jours, tu as des créateurs de contenu qui vont faire la critique d'une série, d'un jeu vidéo, d'un film. Tu te dis, mais alors déjà, d'une, bravo parce que vous arrivez à le trouver le temps de le faire. Super. Deux, au bout d'un moment, en fait, vous êtes plus légitime. Parce que tu peux pas passer du spectre de dire je vais te faire 20 minutes de vidéo en disant que c'est génial. Et le lendemain, tu vas dire Shogun, je vais te faire 20 minutes de vidéo pour te dire que c'est super. Enfin, non, au bout d'un moment, tu peux pas faire tout ça. Et le surlendemain, tu vas parler de Barbie en disant que c'est nul, etc. Enfin, je comprends pas, en fait, comment tu peux être aussi prolixe. En tournant, enfin, pour moi, tu tournes en rond, en fait, tu tournes à vite.
Enfin, les gens sont bien obligés, enfin, les gens dont tu parles là tout de suite,
et justement, c'est ce que je dis,
sont bien obligés, en fait, d'aller chercher le dernier truc dont on parle. Tu vois,
c'est un gagne-pain.
Bien sûr.
Oui, mais tu vois, prends une rédaction de magazine de critique, il y a plusieurs personnes qui ont des appétences particulières et définies, et on va plus mettre machin sur des blockbusters, l'autre sur les films d'auteur, l'autre sur les films français, etc. etc. Y a déjà plus de logique, tu vois. Demain, je dis n'importe quoi, il y a un Truffaut qui ressort et qu'en fait, ça devient le banger du moment et dont tout le monde parle, t'inquiète pas que tous les youtubeurs cinéma vont se lever en disant « C'est génial, en fait. Putain, hey, Truffaut, vous savez pas, mais attends, mais moi, Truffaut, je le connais sur le bout des doigts. Hein. » Truffaut, moi j'ai toute la filmo à la maison quoi. Parce qu'ils seront allés vite fait à la Fnac acheter la collecte, tu vois.
Ou pas.
Non, je déconne, je grossis le trait encore une fois, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a un côté un peu genre, c'est pas grave en fait de pas maîtriser, tu vois.
Oui, en fait, c'est un truc que j'ai beaucoup ressenti moi à l'époque où je traînais un petit peu mes guêtres du côté des vrais journalistes. C'est que en fait, personne n'assume plus ou moins de pas maîtriser certains sujets. Tu vois, tout le monde te dit ouais c'est super machin, et en fait et après est-ce qu'on peut vraiment dire que t'es pas spécialiste quoi, parce que dans le sens où même si, enfin si tu regardes 100-200 films ou séries dans l'année, t'as le droit aussi d'être spécialiste généraliste.
Oui, non. Mais bien sûr. Non, mais oui, t'as le droit d'être spécialiste généraliste. Tu peux être généraliste. Et nous, je pense que c'est ce qu'on est, d'ailleurs. On voit beaucoup de choses et c'est assez varié. Il y a une variété de choses qu'on voit. On passe de plusieurs thématiques à...
Bien sûr.
C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que je me targue pas d'être, par exemple, le spécialiste absolu d'une œuvre qui sort, en fait.
Ah bah oui, bien sûr.
Bah oui, mais il y en a beaucoup, en fait. Et justement, ils vont asséner le tout en disant « Mais attendez, vous avez vu ce qu'ils ont fait de mon personnage et tout ?»
Et tu
fais « Gars, en fait, non, enfin, je comprends pas pourquoi tu te permets de dire ça. » Alors déjà, d'une, encore une fois, on redescend, ça reste du cinéma, ça reste de la fiction, etc. Deux, on sait très bien que c'est parce que tu... Bon, là, je m'attaque plus aux youtubeurs quand je dis ça.
Il y a beaucoup d'arguments d'autorité dans ce genre de vidéo.
Et en fait, c'est ça. Et donc, c'est ce dont on parle, en fait. Banger, masterclass, des trucs comme ça, qui veulent tout rien dire. C'est des mots valises nuls, en fait, et ça sert à rien. Il faut qu'on fasse gaffe, nous, tous les deux, par contre, si un jour on nous prend dire banger et masterclass.
On fera confiance, évidemment, à notre public pour nous remettre dans le droit chemin, si ça arrive, bien sûr. Mais tout ça, en fait, pour dire, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, il y a une espèce de brouhaha d'avis, que les réseaux sociaux gerbent, en fait, à longueur de journée. Et c'est difficile en fait de faire en sorte de profiter de ton œuvre en ton temps et de laisser former ton avis alors que t'es toi-même dans ce brouhaha là, dans le sens où souvent je sais pas quand est-ce que vous avez vu Anatomie d'une chute, mais moi je l'ai vu très très tard. Je l'ai vu il avait chopé son César déjà, donc c'est vraiment très très tard dans le run de sortie du film. Est-ce qu'on peut pas dire aussi que la critique et le bouche à oreille influencent quelque part ton avis sur telle ou telle œuvre, puisque évidemment que y a certains films que tu découvres pas day one au cinéma.
Mais là c'est un autre sujet. Là tu parles de l'impact de la critique.
Ouais.
C'est autre chose pour moi. C'est un autre sujet, mais qui pourrait faire un gros sujet de l'émission. Ouais, on pourrait se regarder plus tard. Mais oui, évidemment que ça impacte un avis, c'est normal. Une hype se crée autour d'un bouche à oreille. Et encore, est-ce que c'est de la critique ? C'est juste du bouche à oreille. C'est de dire, putain, le film, il marche. En fait, c'est ça. Le film, il marche au box-office. Deux, il a des bons retours critiques, certes. Et les spectateurs, tu vois, en parlent bien. Mais ça veut dire que c'est des critiques, tu vois, absolues. Moi, ça a marché, par exemple, sur Anatomie d'une chute, parce que c'était déjà pas les mêmes personnes qui parlaient d'Anatomie d'une chute que les personnes qui parlent de Dune 2. Tu vois ce que je veux dire ? Anatomie d'une chute, c'était déjà un film qui sort de nulle part, dans l'idée. On s'attendait pas du tout à ce que ça marche. Il y a une polémique au Festival de Cannes. Il a gagné à Cannes. Donc déjà, ça met les choses en place. Déjà, voilà. Dune 2, suite... d'un film qui a bien marché, d'un coup il y a une fanbase qui s'est créée autour du film, donc voilà, on parle pas des mêmes critiques entre guillemets pour le film. Moi ça a mieux marché Anatomie d'une chute parce que c'était plus fin, plus subtil, mieux amené, pas forceur, Genre, on me dit, le film, il est bien. Ok, pour quelle raison? Parce que j'ai jamais eu aucun spoiler.
C'est vrai.
De trucs.
Et pourtant,
le film pourrait. Hein. D'une, deux, tu sens que c'est on lâche les chiens et c'est là, le film, c'est tartoche de compliments. Ouais. Et même tout le monde s'y met. Les gens de la profession y vont parce que c'est de bon ton de le faire et tout. Tu fais bon. Et tout n'est pas parfait. Je m'égare peut-être encore, mais et puis il faut qu'on passe à autre chose après. Mais en ce moment, il y a la rétrospective de James Cameron à la Cinémathèque. Donc Cameron est venu à Paris, il a beaucoup parlé, il a été interviewé dans les médias et il disait quelque chose que je trouve très intéressant. Il revenait sur Terminator, qui sont des chefs-d'œuvre, Terminator 1 et surtout Terminator 2, qui est vraiment, lui, je ne l'emploie pas. Pour moi, c'est un vrai terme que j'utilise là, c'est chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre pour moi, Terminator 2, pour énormément de raisons. Mais lui, il dit. Il y a 30 ans, si je faisais le film aujourd'hui, je n'aurais pas refait le même film. Et on lui demande pourquoi, il dit parce qu'en fait, j'ai vachement trop mis en avant les armes en fait. Et je trouve que mon film valorise énormément les tueries, les armes, justement, tu vois, cette action débridée.
Ouais.
Il fait aujourd'hui, ça me rend malade ce que je vois dans mon pays, et etc., etc. Donc en fait, non mais c'est con, mais on aurait eu un film différent.
Ah bah,
donc,
bien sûr.
En fait, ce que tu critiques aujourd'hui n'est pas la même chose que tu critiques il y a 30 ans. Et tout ça, c'est le « on peut plus faire ce qu'on faisait il y a avant », etc. etc. Tu vois, donc, tout change aussi en permanence. Donc, en fait, rien n'est figé dans le temps. Et c'est pour ça que quand on me dit « c'est l'Empire contre-attaque de 2024 », quand on me dit « c'est le film de… » Non, tout bouge, tout évolue. Et en plus, c'est chiant de comparer les choses à d'autres. Voilà. Et je termine juste sur un dernier truc, parce que j'ai envie de parler, excuse-moi.
Vas-y.
Shogun, par exemple, la série de Hulu aux États-Unis, donc sur Disney+, qui est une très bonne série.
Ouais.
On l'a tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu comparer ça à Game of Thrones en mode japonais.
Oui, c'est vrai.
Créateur a dit pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Arrêtez, en fait. C'est pas ça que je veux, quoi. Mais il faut toujours critiquer en mode. Moi, je sais. Alors, je sais que Game of Thrones, c'est bien. Alors, bon, bah, on va dire que Game of Thrones, c'est ça. Et tu Non. Bref.
Oui, non, mais parce que la rapidité d'exécution, quand même.
Exact. Il faut du prêt-à-penser.
Exactement.
Clac-clac, ça c'est quoi? C'est médiéval un peu? Voilà, Shogun, ouais, il se tape avec des. Bon, allez, vas-y, il y a de la politique, c'est Game of Thrones.
C'est
chiant, quoi.
Ce sera sans doute le mot de la fin. Je vais le laisser à Lactic dans le chat, qui dit que, bon, évidemment, il ne faut pas oublier les agréateurs de critiques. On en a parlé avec Rotten Tomatoes et Allociné. Mais aussi le fait qu'on a tellement de choix dans. Les critiques, en fait, que ce soit professionnel ou influenceur et autres, on peut se permettre de filtrer et suivre les critiques qu'on apprécie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important.
Ouais.
Se rappeler que une critique, ça reste le reflet d'une subjectivité. Et si vous vous rendez compte que à force de lire ou d'écouter ou de visionner telle ou telle personne qui fait de la critique, vous vous rendez compte que souvent, vous êtes relativement d'accord. Bah, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez plus souvent lire, plus souvent écouter, plus souvent visionner. Mmh. Et ça, je pense que c'est important aussi de se dire, évidemment qu'on ne peut pas tout regarder, évidemment qu'on ne peut pas jouer à tout. Mais s'il y a quelqu'un qui vous ressemble un petit peu, qui a plus ou moins les mêmes codes, les mêmes avis ou pas, hein, mais dont vous respectez l'avis, ça peut être intéressant quand même de se dire, ok, mais qu'est-ce qu'il a pensé de Fallout, lui? S'il a bien aimé ou s'il trouve ça intéressant, même s'il trouve pas que c'est un chef d'œuvre, bah peut-être que je vais me laisser tenter.
Ah,
et ça, je pense que c'est important. C'est aussi le travail de quelqu'un qui consomme un petit peu Internet, de se dire ok, toutes les sources ne se valent pas, parce que certaines sources n'en sont pas. Et peut-être que moi aussi, je vais filtrer, je vais faire ma petite bulle et me dire ok, alors lui, j'ai souvent pas les mêmes avis, mais je respecte ce qu'il dit. Je vais le suivre.
Mmh.
Il est souvent similaire à ce que je pense. Ça m'intéresse ce qu'il pense. Enfin, donc évidemment, bah, ça fait aussi partie de ça. Quand tu as des algorithmes comme TikTok, par exemple, qui te proposent en fait, et qui te gavent de trucs, c'est un peu différent. Il n'y a pas ta passe à toi d'esprit critique pour te dire « Ouais, mais lui, en fait, ça m'intéresse ce qu'il dit. » Alors que ça peut être n'importe qui va arriver sur ton feed TikTok et c'est complètement différent.
Mais heureusement que l'humain est fait comme ça. Heureusement que l'humain n'est pas bloqué, tu vois, dans l'idée sur des idées arrêtées. Certaines personnes, j'imagine que oui, mais moi, je préfère 100 fois être remis en question sur mes goûts en disant ah oui en fait non mais oui allons-y en fait il y a un film là je sais pas un polar qui va sortir je suis pas très polar mais là le truc on m'a convaincu on me l'a super bien vendu bon allez vas-y en fait bon j'ai ça. Envie d'y aller j'ai envie de le tester quoi mais si tu restes toujours dans ton précaré et ton schéma de pensée prédéfini oui là tu vas te faire chier quoi c'est l'intérêt d'un critique c'est là où
exactement ouais. Et puis c'est l'objectif aussi du radar des sorties qui va arriver et de notre section reco de vous dire ce qui sort et de vous dire ce que nous on a retenu. Comme ça, vous pouvez savoir aussi, parce que évidemment, on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Donc, bien au bout d'un moment, il faut bien pouvoir trier. Donc, du coup, nous, on fait déjà un tri pour vous. Et ensuite, on est à l'écoute, évidemment, de vos propositions, notamment sur Discord, et de vos recommandations à vous aussi. Ça nous intéresse.
Complètement. N'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous pensez du sujet. Et est-ce que vous pensez de la critique, du métier de critique, de la critique en général
Est-ce que vous en lisez beaucoup déjà.
Est-ce que vous en regardez aussi Il y a énormément de podcasts de critiques.
Bien sûr, énormément. En français, mais aussi en anglais, ailleurs, etc. Il y a un dernier truc que je voulais dire, c'est pas parce que la critique est professionnelle qu'elle est forcément meilleure. Hein. Moi, il y a plein de critiques professionnelles que je déteste lire.
Bien sûr.
Parce que c'est foutu pas comme une critique que j'aimerais. Je déteste, par exemple, les critiques qui te racontent le film. C'est vrai. Il y en a énormément. Ça me gonfle. Et donc, c'est le genre de truc. C'est pas parce que t'es payé pour aller voir un film que t'es forcément plus légitime pour moi.
Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant, je rebondis là-dessus, c'est un peu ce que je voulais dire sur le côté qu'est-ce qu'une critique. Nous, quand on a fait PopTier, on a fait attention, par exemple, à faire une critique sans spoiler.
Bien sûr.
Et on a posé la question, et c'est pour ça qu'on a arrêté après, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens nous écoutaient après coup, en fait, après avoir vu le film, après avoir vu la série, après avoir joué aux jeux vidéo. Et en fait, l'idée, c'était de se dire... Ah, donc la consommation de la critique, elle vient de là, en fait. Elle est comme ça. Et il n'y a pas forcément une critique pré-visionnage ou pré-jeu. Et donc, en fait, chacun a sa façon de manger et de voir la critique. Et je veux vraiment terminer là-dessus. Et là, il faut vraiment qu'on passe à autre chose, parce que l'émission commence à durer. Il y a beaucoup de gens qui voient la critique comme, encore une fois, quelque chose de « j'ai gagné, j'ai perdu ». Il faut absolument que ça aille dans mon sens, sinon, en fait, ils ont tort. Non. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas Dune 2, mais j'aime beaucoup lire vos avis contraires, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, dans le chat, et j'aime beaucoup lire des critiques inverses de ce que je pense.
Bien sûr.
Parce que c'est intéressant de me dire, ah, ok, donc lui, il a vu ça, moi, je ne l'avais pas du tout vu comme ça. Peut-être que moi, j'ai tort. Peut-être que moi, j'ai envie, en fait, finalement, de revoir le film pour me dire que là-dessus, au moins, j'admets que c'est quelque chose que je n'avais pas vu.
Bien sûr.
Etc., etc. Faut vraiment être humble vis-à-vis de...
Bien sûr.
Non, mais de ce qu'on dit et de ce qu'on
exactement.
Critique, quoi. Bon, bref.
Évidemment, sur YouTube et Dailymotion, on attend vos commentaires sur ce grand débat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça. On va enchaîner tout de suite avec le radar des sorties. Je vous ai sélectionné deux sorties salles cette semaine avec Nous les Leroy qui sort le 10 avril. C'est un film de Florent Bernard avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Le pitch, c'est Sandrine annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Et dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage, un voyage qui ne va pas être de tout repos. Ça me donne très envie d'aller au cinéma. J'ai regardé la bande-annonce, j'ai très envie de voir ça. Deuxième film, là c'est plutôt du côté du blockbuster bien entendu, SOS Fantôme, La Menace de Glace, le 10 avril également. La famille Spengler revient à l'emblématique caserne de pompiers de New York. Ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme pour faire face à une menace de glace sur la ville. Je vous propose évidemment Fallout, la série événement de la semaine, le 11 avril sur Prime Video. Les 8 épisodes seront disponibles en intégralité au moment de sa sortie le 11 avril. Le pitch, c'est 200 ans après l'apocalypse, les habitants des luxueux abris anti-atomiques sont contraints de retourner dans le paysage apocalyptique irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux et se retrouvent sous le choc de découvrir ce monde incroyablement complexe, joyeusement étrange et extrêmement violent qui les attend. C'est créé par Lisa Joy et Jonathan Nolan, tu les as cités tout à l'heure, les créateurs de Westworld, tout simplement.
Tout à fait.
Je vous propose, et là pour le coup, c'est vraiment nostalgie, Stargate SG-1, le 11 avril, en intégralité sur Prime. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai appelé de mes voeux qu'une plateforme de streaming diffuse cette série, qui est une série nostalgique de mon enfance, et je suis sûr que je vais regarder des épisodes et je vais trouver ça pourri.
La série Doudou.
c'est ma série, voilà. Stargate SG-1, la trilogie du samedi. Quel bonheur. Voilà, donc j'ai très hâte de me remettre à regarder ça. Ça sort le 11 avril sur Prime Video. Le règne animal avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos sort le 12 avril sur Canal+. N'hésitez pas à aller le voir ou le revoir. Ainsi que Black Panther Wakanda Forever le 12 avril sur Disney+. C'est la fin de mon radar des sorties. Je te propose d'enchaîner avec ta reco, Adrien.
Yes, et ben c'est le Marocco. Je vais être assez rapide parce qu'en fait j'ai vu que les trois premiers épisodes de The Walking Dead, The Ones Who Live, désolé pour mon accent anglais, qui est le spin-off de Ceux qui vivent, Les morts qui marchent, ceux qui vivent, qui est diffusé actuellement sur Paramount, qui a déjà été diffusé aux États-Unis, mais en France c'est le seul diffuseur à ma connaissance, et qui diffuse ça semaine après semaine. Donc pour l'instant on n'a que 3 épisodes, alors on enregistre ce podcast, et c'est le dernier spin-off en date de la série Walking Dead, après alors si je me trompe pas Daryl Dixon, et l'autre c'était Dead City. J'ai vu que Daryl Dixon, j'ai pas vu Dead City. Toi, t'as vu Dead City?
Ouais. Donc j'avais parlé d'ailleurs en reco pour vous dire que c'était pas incroyable.
C'était pas incroyable, ok. Et ben là, moi, très bonne surprise, je trouve, The Ones Who Live. Avec, en fait, l'histoire, j'essaie de pas trop spoiler, mais se passe des années après que Rick soit parti de la série, parce qu'en fait, ça c'est un spoiler, mais bon, qui date quand même de plusieurs années. À un moment, Rick quitte la série, donc Rick Grimes, qui est joué par Andrew... J'ai perdu son nom.
Lincoln,
merci, Andrew Lincoln, quitte la série, et en fait, là, c'est la première fois qu'on le revoit, vraiment, dans un spin-off de Walking Dead, et il se retrouve avec Michonne. Et l'idée, en fait, c'est d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant des années du côté de Rick, parce que Michonne, on savait un petit peu, mais Rick, on savait vraiment pas du tout, et c'est pas mal, en fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça se déroule dans une partie des États-Unis où les militaires ont repris le contrôle. Je vais rester extrêmement vague, quoi, mais en gros, il y a vraiment une grosse faction militaire qui a pris le contrôle, pas forcément que d'une ville non plus, et ça se transforme plus en fait en série de zombies, mais plus en série d'action soldats armés, et en même temps il y a une love story, il y a une love story là-dedans. Et dans cette love story, c'est l'histoire de Rick et Michonne, bien évidemment, et aussi de nouveaux personnages qui vont graviter autour d'eux, et de savoir comment s'en sortir quand il y a une pression politique, quand il y a une pression aussi autour de ce qu'on est, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils ont beaucoup changé ces personnages. Je vais rester assez vague, mais allez-y, foncez pour
ça
ceux
t'a
qui...
Plu.
Là, ça m'a plu parce que déjà j'aime bien l'univers de Walking Dead. Je sais que ça devenait nul hein, sur la fin. Nul, hein. Ne le disons pas comme ça. Ça devenait de moins en moins bien pour moi, Walking Dead, au point que j'ai lâché en fait Walking Dead. Et là, j'ai vraiment repris récemment avec Daryl Dixon qui m'a fait marrer parce qu'il était en France. Donc c'était juste rigolo de voir Daryl déambuler dans la rue de Paris et au Mont-Saint-Michel. Et là, je me suis dit, attends.
Faut que je regarde ça.
C'est franchement, par rapport à The Ones Who Live, c'est beaucoup moins bien écrit et bien joué. Okay. Moins joué beaucoup moins, bien moins joué. Là, c'est justement assez bien joué. Les effets spéciaux tiennent bien la route. C'est sur 6 épisodes, je crois. Donc, en fait, c'est très restreint. Et je crois pas qu'il y aura une saison 2. En tout cas, ils annoncent pas spécialement une 2. Ça reste mystérieux pour l'instant. Et je me dis que ça peut tenir super bien sur une saison, quoi. Et voilà. Donc, allez-y, si vous êtes curieux. Ça peut vous redonner envie de regarder Walking Dead. Moi aussi, ça m'a redonné un petit peu envie de me relancer dans la série principale.
Bah, écoute.
Et voilà. Ouais.
Moi, j'ai regardé, pour info, que le premier épisode, que j'ai trouvé franchement pas mal.
Ouais.
Notamment avec le gros truc d'ouverture. Et je me suis dit, ah, enfin!
Oui, il était temps. C'est un truc qui se passe dans les comics, qui se passe enfin dans la série. Quoi.
Ouais. Et donc du coup, moi je vais continuer. Je me suis laissé un petit peu prendre du retard, mais j'avais été assez convaincu par ce season première. Et de ce que j'ai cru comprendre, il me semble que c'est peut-être pas forcément qu'une seule saison.
Hein. D'accord.
Donc à voir.
Alors pour l'instant, c'est pas commandé. La saison 2 n'est pas commandée.
Ouais. Donc pour l'instant, on attend. Mais la saison 2 de Daryl Dixon arrive en fin d'année prochaine.
The Book of Carol.
Exactement.
Ça. Mais juste pour terminer sur The Ones Who Live, c'est intéressant parce que t'as l'impression qu'ils vont tenter des choses qu'ils tentaient déjà dans le comics. Je trouve qu'ils s'étaient vachement endormis dans la série principale.
Oui.
Ça tournait vachement en rond quand même sur des trucs autour d'Alexandre. Alexandria, là, ils y étaient pendant très, 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 très longtemps et ça bougeait pas trop. Dans les comics, ça bougeait un peu plus. Ils tentaient des choses, justement, avec le côté armure de combat. Tu vois, ils avaient des choses un peu plus cool à proposer. Et là, en fait, ils y vont, quoi. Ils ouvrent beaucoup plus l'univers et c'est très sympa.
Très cool. Bah ouais. Écoute, merci pour cette reco, Adrien.
De rien.
Voilà qui conclut notre épisode 42 de Pop News cette semaine. J'espère que celui-ci vous a plu. Si celui-ci vous a plu, eh ben, le meilleur moyen de nous le prouver, c'est de laisser un petit pouce en l'air, un commentaire sur les plateformes où c'est possible, bien sûr. Et sur vos applications de podcast, laissez des petites étoiles, ça fait toujours très plaisir d'avoir tout ça. C'est que ça aide beaucoup hein, sur ce genre de plateforme. Mm-hmm. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont disponibles sur notre Linktree, ainsi que rejoindre notre serveur Discord et puis donner un petit coup de pouce sur la page Ko-fi. C'est évidemment toujours très apprécié. Ça vous permettra de participer à l'émission via des questions. Donc n'hésitez pas à le faire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine déjà pour l'épisode 43, notamment sur twitch.tv/p0pnews à 20h30 le lundi et puis sur toutes les plateformes le mercredi. Merci à tous de nous avoir écoutés, puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut à tous.
La terre est fermée pour la journée. Ramassez vos affaires et rentrez tout de suite à la maison.